à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 5 octobre 2015, en direct de Washington. Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Niger, des attentats suicides font des victimes à Diffa, dans le sud-est du pays. Boko Haram pointé du doigt.
En Guinée, le calme est revenu à Zérékoré, où de violents affrontements avaient opposé militants du RPG au pouvoir et partisans de l'UFDG, principal parti d'opposition.
À Bangui, appel de la société civile centrafricaine pour un grand rassemblement aujourd'hui, place des Martyrs.
Israël a lancé tôt lundi une frappe aérienne sur la bande de Gaza en réponse à un tir de roquette.
Le secrétaire américain à la Défense promet une enquête complète et transparente sur le raid aérien américain qui a fait samedi au moins 22 morts dans un hôpital de Kunduz dans le nord de l'Afghanistan.
Ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Niger, un gendarme et au moins 3 civils ont été tués hier dans des attentats suicides à Diffa, dans l'extrême sud-est du pays, près de la frontière avec le Nigeria. L'AFP, qui cite une source humanitaire, parle de 6 morts, un gendarme et 5 civils. Joint plus tôt dans la journée hier par Idriss Fall, notre confrère Adam Baboukarna, directeur de la radio Enfani à Diffa.
À Diffa, 4 kamikazes se sont introduits dans la ville. Ils se sont fait exploser dans 2 endroits différents. Le premier endroit, c'est à un carrefour à côté du lycée à Laoma, à 100 mètres de la brigade de la gendarmerie, où le kamikaze et un gendarme et un autre kamikaze ont été tués parce que l'un a décroché sa charge. Donc les deux ont pris la fuite et ils ont été rattrapés dans un quartier qu'on appelle Diffa Korola, où un a été abattu et un a pu faire exploser sa charge, où malheureusement il y a eu beaucoup de victimes.
La semaine dernière, Boko Haram avait aussi attaqué un village pas loin de Diffa, non?
Oui, ils avaient attaqué il y a 3 jours de cela Barwa, c'est dans la commune rurale de Bosso, à peu près 100 km de Diffa, la frontière. Ils ont tué 2 forces de défense de sécurité, blessé 4. Et dans un village qu'on appelle Mbungutua, c'est dans la commune rurale de Chetumer, à 30 km de Diffa. Là aussi, ils ont tué 15 personnes et ils ont fait déplacer plus de 2000 personnes.
En Guinée, le calme est revenu à Nzérékoré, dans le sud-est du pays. De violents affrontements avaient opposé pendant 2 jours des militants du RPG au pouvoir à des partisans de l'UFDG, le principal parti d'opposition. Il y a eu plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, alors que le pays doit tenir une élection présidentielle le 11 octobre. Le point avec Mathieu Mamanamou, président du Conseil de la société civile à Nzérékoré.
Lors d'une manifestation politique liée à la campagne électorale présidentielle, il y a eu des affrontements au départ qu'on pourrait qualifier de politiques, mais qui est devenu rapidement ethnique. Donc depuis hier, la ville est complètement troublée. Il y a eu vraiment des dégâts matériels importants et plusieurs personnes blessées. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de la cité forestière. Depuis le début de la campagne le 11 septembre, jusque-là, j'ai découvert qu'on a mené une campagne civilisée. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est très inquiétant et ça risque de donner une empreinte négative au déroulement des élections présidentielles. Mais quand même, ils ont quadrillé la ville et le calme est aussi tout revenu.
En République centrafricaine, alors que Bangui retrouve progressivement le calme après une nouvelle vague de violences meurtrières, un grand rassemblement de la société civile est prévu ce lundi, place des Martyrs. Les précisions de notre correspondant Freeman Spipila.
Le temps de Béafrica, c'est le nom de ce mouvement initié par la société civile centrafricaine. Selon les organisateurs, il ne s'agira pas d'une marche, mais plutôt d'un rassemblement patriotique et pacifique, place des Martyrs à Bangui, afin d'insister sur leurs 11 points de revendication formulés la semaine dernière. Pour Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile et un des initiateurs, il s'agira d'un double événement.
Le rendez-vous est maintenu. Il est maintenu, il est d'ailleurs demandé et exigé par le peuple centrafricain. Nous allons le faire et nous faisons un double événement. Nous célébrons en même temps la journée internationale de la non-violence qui était prévue pour le 2 octobre, mais que nous faisons ça le 5 octobre. Et c'est pour en même temps célébrer la mémoire de nos compatriotes qui sont morts et dire à tous les centrafricains que la meilleure manière pour lutter, pour revendiquer nos droits, c'est pacifique, c'est non-violent.
L'appel à la reprise du travail lancé par les autorités de la transition risque d'être perturbé aujourd'hui par ce mouvement. Tant de Béafrica est né dans la foulée des violences meurtrières qui ont embrasé la capitale centrafricaine fin septembre et début octobre 2015. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, une commission doit examiner aujourd'hui la demande de libération anticipée de l'ancien champion paralympique Oscar Pistorius, demande qui avait été bloquée fin août par le ministre de la Justice. Si la commission venait à y accéder, l'ancien champion serait assigné à résidence. Pour rappel, Pistorius a été condamné à 5 ans de prison le 21 octobre 2014 et a été immédiatement incarcéré. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire dans la mort de sa petite amie Riva Steenkamp, abattue chez lui le jour de la Saint-Valentin 2013.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président de la Syrie, Bachar al-Assad, a déclaré hier que tout le Moyen-Orient sera détruit en cas d'échec des frappes aériennes de la Russie contre les militants opposés à son gouvernement. L'alliance entre la Russie, la Syrie, l'Irak et l'Iran doit réussir, sinon toute la région sera détruite, a dit Assad à la télévision d'État iranienne. Il a ajouté que les chances de succès de cette coalition sont grandes et non insignifiantes. La Russie intensifiait pendant ce temps ses raids aériens contre les insurgés, ciblant, selon elle, des camps d'entraînement, dépôts d'armes et postes de commandement du groupe État islamique dans la province d'Idlib. Mais selon Washington, les Russes, pour soutenir leur allié Assad, ciblent ses adversaires appuyés par les États-Unis plutôt que les combattants du groupe État islamique que bombarde la coalition dirigée par l'Amérique depuis plus d'un an.
Israël a mené tôt ce matin une frappe aérienne sur la bande de Gaza en réponse à un tir de roquette sur le sud du territoire israélien, a annoncé l'armée dans un communiqué. L'armée de l'air israélienne a visé un site terroriste du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué l'armée. La roquette tirée depuis la bande de Gaza est tombée dimanche soir sur un terrain désert dans le sud d'Israël sans faire de victimes, avait auparavant annoncé l'armée. Des salafistes se disant liés à l'organisation djihadiste État islamique ont revendiqué les récents tirs de roquettes, mais Israël tient le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza pour responsable de ces incidents. Par ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné des mesures sévères, y compris boucler pendant 2 jours la vieille ville de Jérusalem après les meurtres de 2 Israéliens, Idriss Fall.
Ces nouvelles mesures portent sur un recours plus large à des détentions sans jugement pour les suspects, le renforcement des forces de sécurité à Jérusalem et en Cisjordanie. Israël a aussi décidé hier de fermer pendant 2 jours la vieille ville de Jérusalem aux Palestiniens. Ce sera la première fois depuis des années. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, a parlé de mesures sans précédent après 2 attaques au couteau ce week-end. 2 Israéliens ont été tués et les assaillants ont été abattus par les soldats israéliens. Pour montrer leur colère, des dizaines de jeunes Palestiniens masqués ont jeté des pierres sur la police, faisant craindre une 3e intifada. Face à cette escalade, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé le président palestinien Mahmoud Abbas pour exprimer ses inquiétudes et lancer un appel au calme.
Le secrétaire américain à la Défense, Ash Carter, s'est engagé hier à mener une enquête exhaustive et transparente sur le raid aérien américain qui a fait samedi au moins 22 morts dans un hôpital de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Ce raid a provoqué un tollé au sein des agences humanitaires, dont Médecins sans frontières qui opérait cet hôpital. Médecins sans frontières a demandé une enquête internationale indépendante sur ce raid qui a coûté la vie à 12 membres du personnel et à 10 patients.
Monsieur Carter a cependant averti que la situation à Kunduz est confuse et compliquée, tout en s'engageant à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il a ordonné aux forces américaines d'apporter toute l'aide médicale nécessaire dans la région. Auparavant, les autorités afghanes avaient déclaré qu'entre 10 et 15 combattants talibans se cachaient dans l'hôpital. Mais Médecins sans frontières a souligné qu'aucun membre de son personnel n'a signalé de combat dans le complexe hospitalier avant le raid américain.
Et maintenant, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine regroupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo a enregistré une croissance de 6,5%. Selon un rapport annuel établi par le secrétariat du comité monétaire de la zone franc, assuré par la Banque de France, il s'agit de sensibles progressions. Le même rapport précise que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en l'occurrence le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, a effectué un rebond substantiel avec une croissance de 4,7%. En revanche, aux Comores, la croissance a ralenti à 2,1% en 2014. La société minière Kibali Gold Mines, dont l'État congolais détient 10% des actions, devrait créer une zone d'exploitation spéciale pour les creuseurs clandestins dans l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo. Objectif, éviter les tensions. Enfin, l'économiste français Thomas Piketty a estimé que l'aide internationale n'était pas forcément bénéfique aux pays africains. S'exprimant à Johannesburg devant la Fondation Nelson Mandela, M. Piketty a épinglé l'Afrique du Sud. Il a estimé qu'il y avait beaucoup de doutes sur l'efficacité des politiques mises en place après l'apartheid, prétendument pour mieux répartir les richesses.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football avec les demi-finales retour des Coupes d'Afrique des clubs en Ligue des Champions, qualification historique de l'USM Alger.
Le club algérien s'est contenté d'un nul 0-0 sur sa pelouse face au Soudanais d'Al Hilal. À l'aller, l'USMA s'est imposé 2-1. On rappelle que l'an passé, c'est un autre club algérien Sétif qui avait remporté la Ligue des Champions. Et en finale, le club de la Médina va affronter le tout-puissant Mazembe qui a renversé l'autre club soudanais El Merieck. Battu 2-1 à l'aller, les Corbeaux se sont imposés à Lumumbashi 3-0. Ce sera la 7e finale pour l'équipe de Moïse Katumbi.
En Coupe de la Confédération, Étoile du Sahel, Orlando Pirates sera l'affiche de la finale.
Oui Idrissa, le club de Sousse a écarté les Gémissiers du Zamalek. Pourtant, l'âge vainqueur 5-1 à l'aller, l'Étoile du Sahel a évité le pire en s'inclinant que 3-0. Il n'a marqué qu'un seul but à Zamalek qui a pourtant été réduit à 10 dès la 5e minute de jeu. En finale, les Tunisiens doivent être plus convaincants face au Sud-Africain d'Orlando Pirates, déjà vainqueur à l'aller 1-0. Le club de Soweto est allé battre le club du Caire, le National Al Ahly, cette fois à Suez 4-3. Et puis du football féminin pour parler du coup d'envoi du dernier tour de qualification pour les prochains Jeux Olympiques qui a été donné avec les matchs aller et cette coup de victoire du Cameroun face au Zimbabwe 2-1 dans l'autre match. Bon résultat de la Guinée équatoriale qui est allé chercher le nul en Afrique du Sud 0-0. Les matchs retour auront lieu dans 15 jours.
Dans l'actualité également du basketball et grosse déception des Camerounaises en finale de l'Afrobasket, elles ont été battues chez elles.
Défaite face au Sénégal qui s'impose 81-66. Les Camerounaises qui disputaient la première finale de leur histoire avaient le soutien de leur public. Mais les Lions archi favorites ont tenu leur rang. 11e titre continental en 17 finales disputées pour le Sénégal. Nation la plus titrée d'Afrique en basketball féminin. Nation assurée également de représenter le continent aux prochains Jeux Olympiques. Un espoir que caressent également les Camerounaises. Elles disputeront un tournoi qualificatif tout comme le Nigeria qui a terminé à la 3e place en battant l'Angola, double championne d'Afrique, le score 65-45. Sachez également que les Maliennes sont classées 5e après leur succès face au Mozambique. Le Gabon se classe 7e après avoir battu l'Égypte.
Rugby à présent est la grosse sensation à la Coupe du Monde, le pays hôte éliminé.
Effectivement, Idrissa, c'est suite à sa défaite face à l'Australie 33-13. L'Angleterre éliminée dès la phase de poule, c'est une énorme sensation. De son côté, l'Afrique du Sud continue son chemin. Victoire face à l'Écosse 34-16. Les Springboks se rapprochent des quarts de finale. Et puis en cyclisme, la fin samedi dernier du Tour de la Côte d'Ivoire et la victoire attendue du Marocain Moussine Lassaini. Issiaka Cissé, vainqueur en 2013, a pris seulement la 12e place à plus de 2 minutes 30 du vainqueur.
De l'athlétisme pour terminer, deux nouveaux cas de dopage au Kenya.
Contrôlé positif, Agatha Jeruto, 31 ans, et Josephine Jepkori, 26 ans, ont été suspendus respectivement 4 et 2 ans par la fédération. Résultat, suite à ces nouveaux cas, le vice-président du pays, William Ruto, a annoncé un plan de criminalisation du dopage depuis 2012. Ce sont 38 cas de dopage qui ont été révélés au Kenya.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant au dossier du jour. Le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, s'est adressé vendredi à la 70e Assemblée générale de l'ONU. Il a exprimé dans ce discours, axé sur la liberté et la démocratie, sa reconnaissance à la communauté internationale. Notre envoyé spécial à New York, Tatiana Mosso, a demandé à M. Kafando comment il se sentait depuis qu'il a été rétabli dans ses fonctions après le putsch avorté au Burkina Faso.
Ça a été une épreuve douloureuse, d'abord pour ma personne. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas été molesté, je n'ai pas subi de sévices, mais j'en ai souffert moralement parce que là où je pensais que au Burkina, on avait fini par comprendre que les coups d'État ne servent à rien. Ils sont surtout contre vraiment l'intérêt des peuples. Là où je pensais que cela ne pouvait plus se produire, nous avons vu le contraire.
Que va-t-il advenir du général Diendéré et des autres protagonistes de ce coup d'État ?
Le général Diendéré avait bien dit dans une de ses déclarations qu'il était prêt à se soumettre à la justice. Donc très bientôt, la justice va se saisir de cette situation-là. Maintenant, à côté de cela, nous avons une commission d'enquête chargée de voir aussi quelles sont les différentes implications dans ce coup d'État. Autant nous connaissons les membres de la junte, autant nous ignorons les complicités, surtout les complicités civiles. Donc cette commission-là aussi poursuit son travail. Au total, dans un mois, je pense que nous serons fixés et nous verrons comment maintenant il faut aller à la procédure judiciaire.
Qu'en est-il des autres éléments qui formaient le RSP, ce régiment d'élite ?
À l'heure actuelle, nous avons à faire face à beaucoup de défis. Nous avons des défis extérieurs, c'est-à-dire le terrorisme à nos frontières. Donc voilà des gens qui pourront servir dans les unités qui sont déjà positionnées à nos frontières. Nous avons aussi des défis de la sécurité intérieure, surtout à l'approche des élections. Donc tout ceci faisant, en dehors de ceux qui seront convaincus d'avoir trempé dans ce coup d'État et qui devront répondre devant la justice, ceux-là qui n'ont vraiment pas pris part à quoi que ce soit, seront, comme on dit, recasés.
Savez-vous quand est-ce que se tiendront les élections présidentielles maintenant que la transition a été rétablie ?
Je ne peux pas vous dire maintenant quel sera le chronogramme. Forcément, il y aura un nouveau chronogramme parce que, vous savez, il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont produites avec ce coup d'État. Nous avons des familles endeuillées, nous n'avons pas encore enterré les victimes qui se trouvent être essentiellement des jeunes. Nous avons à leur rendre un hommage national, comme il se doit. Nous avons surtout à privilégier la sécurisation. Je ne vous cache pas qu'il y en a quand même certains du RSP qui n'ont pas encore été arrêtés. On en a arrêté beaucoup, mais il faut déjà être sûr qu'il n'y en a pas qui se sont évadés avec des armes. Donc tout cela demande qu'il y ait une plus grande sécurisation du Burkina, du territoire burkinabé, parce que vous ne pouvez pas aller à des élections dans une confusion. Il faut être sûr que lorsqu'on organise des élections, les bureaux de vote ne seront pas dans l'insécurité. Donc il y a tout ça à régler. Nous avons aussi à avoir le problème de l'armée de façon générale. Parce que maintenant, il faut que l'armée nationale devienne vraiment professionnelle. Plus d'immixion de l'armée dans la politique, plus de création d'unités d'élite en dehors de l'armée nationale. Donc, il y a tout ça que nous devons examiner avant d'établir le nouveau chronogramme.
Dernière question, est-ce que ce coup d'État va mettre à nouveau le voile sur l'enquête concernant la mort de Thomas Sankara ?
La procédure se poursuit. Elle sera certainement d'autant plus intéressante maintenant que, bon, tout le monde sait que le général Diendéré a participé, en tout cas, à l'aventure qui a coûté la vie au président Sankara. Donc, peut-être que nous aurons de ce côté aussi des données qui vont nous permettre de rapidement aller boucler le dossier Sankara. Ça, nous sommes déterminés, nous continuons dans ce sens.
C'était le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, qui répondait aux questions de notre envoyé spécial à New York, Tatiana Mosso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Trois semaines après la signature d'un accord tripartite de coopération entre la HCR et les gouvernements tchadiens et centrafricains pour la participation des réfugiés centrafricains aux élections dans leur pays, l'enregistrement de ces réfugiés sur les listes électorales s'est déroulé pendant le week-end au Tchad. Plus de 40 000 réfugiés sont concernés par cette opération de N'Djamena, André Kodmadjingar.
Même si le chronogramme des élections ne sera pas respecté en République centrafricaine à cause des violences de la semaine dernière, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés continue à faciliter la tâche aux réfugiés pour leur participation à cette consultation électorale, conformément à la résolution 2149 du Conseil de sécurité. 5 centres d'enregistrement de réfugiés en âge de voter sont créés à travers le pays. 1 à N'Djamena, 2 à Goré dans le département de la Niampende, 1 à Maro dans la Grande Sido et 1 à Arras dans le Salamat pour une population estimée à plus de 40 000 personnes. Les opérations sur le terrain sont assurées par les agents placés sous la tutelle du démembrement de l'autorité nationale électorale centrafricaine. Quelques électeurs estiment que l'aboutissement de ce processus va ramener la paix dans leur pays.
Je trouve que c'est vraiment une bonne chose que les Nations Unies ont pensé que les réfugiés devraient voter. Les oiseaux de mauvaise augure reviennent, mais nous sommes sûrs que ça va ramener la paix en Centrafrique. Ça prendra le temps qu'il faut. Un jour, nous rentrerons.
C'est l'amour de notre pays. C'est ça que nous sommes venus pour recenser et voter. Si tu n'as pas voté, tu n'as pas un vrai citoyen centrafricain. Parce que le pays est déjà sur la terre.
Nous voulons la paix. Et c'est à cause de la paix que nous sommes venus. Nous voulons un nouveau président pour mettre le pays en paix. Il faut que la guerre finisse. Vraiment, c'est tout ce qu'on demande.
Très choqué par les violences qui ont fait encore des victimes dans son pays, le président du comité central de réfugiés urbains au Tchad, Séverin Kouyounodé, appelle ses concitoyens à une prise de conscience.
À tous ceux qui sont en Centrafrique, qui sont toujours prêts à détruire ce que l'opinion internationale qui ont de voir comment mettre en place pour pouvoir organiser cette élection, ou détruire encore les ONG humanitaires qui veulent aider le pays, ce n'est pas normal. Il faut une conscientisation. Il y a des gens qui ne comprennent pas le pourquoi ils agissent. Peut-être qu'ils sont manipulés, mais maintenant nous voulons absolument interpeller leur conscience. Être centrafricain, c'est d'être digne d'abord, c'est unité, dignité et travail. Et on a oublié cette devise pour pouvoir lancer dans ces histoires. Donc nous voulons pour que tous les centrafricains, pas de musulmans, pas de chrétiens, on est dans le même sang. Et puis ils vont pouvoir contribuer au développement d'autres pays.
Pour permettre aux réfugiés d'atteindre les différents centres d'enrôlement à travers le pays, l'OSR met à leur disposition les moyens logistiques. Les autorités de l'ambassade de la République centrafricaine au Tchad, quant à elles, observent une neutralité absolue dans cette opération. André Kodmadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Au Gabon, la spectaculaire incarcération d'un cadre du parti présidentiel lié à des malversations financières continue de défrayer la chronique. Cette affaire jette la lumière sur la corruption des élites du pays, une situation qui creuse chaque jour davantage le déficit du budget de l'État, nous dit de Libreville notre correspondant Jean-Rovis Dabani.
Tout démarre par une plainte déposée par le parquet de Libreville contre Serge Maurice Mabiala, ancien patron de la direction des grandes entreprises. À l'origine de ce qui convient désormais d'appeler « affaire Mabiala », la gestion peu orthodoxe de cet organisme dédié aux entreprises est placée sous tutelle du ministère des Finances. La justice soupçonne ce haut fonctionnaire d'avoir détourné plus de 2 milliards de francs CFA dans le cadre d'un redressement fiscal. Devant les enquêteurs, l'homme nie en bloc avoir siphonné les caisses de l'entreprise et tente de s'expliquer. En vain, le juge l'inculpe et le place en détention provisoire. Ses proches crient au complot, la presse se déchaîne. Depuis, les Gazettes et Libreville n'hésitent pas à mettre le doigt sur le dossier suspect, tout en recommandant au pouvoir de tout faire pour acculer le coupable à restituer l'argent volé. Mais dans cette croisade de tolérance zéro, les hauts cadres qui profitent de leur fonction pour piller les deniers de l'État sont intouchables. Ce qui fait redouter à Jonathan Tuntoum, analyste politique, l'enterrement de toute l'affaire.
En lançant cette opération de lutte contre la corruption, est-ce qu'une telle opération est en mesure d'être opérationnel sans que les élites dirigeantes actuelles ne soient concernées par une telle opération. Moi, j'émets des doutes parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, n'est qualifié de riche que celui qui a exercé des hautes responsabilités, soit dans l'administration ou au niveau de l'appareil politique de l'État. Et à partir de ce moment-là, j'ai peur que personne ne puisse être épargné par le mouvement ou le procès de lutte contre la corruption.
Serge Maurice Mabiala est l'un des fondateurs du mouvement Héritage et Modernité, très critique envers Ali Bongo et son entourage. Selon les membres de ce courant frondeur, la société civile et l'opposition, l'ancien ministre et ancien directeur des cabinets d'Ali Bongo est poursuivi pour avoir réclamé plus de transparence sur la gestion politique et économique du pays. Georges Paga est membre de la branche gabonaise de Publier ce que vous payez.
Ce que nous souhaitons, c'est que la justice, au-delà de l'affaire Mabiala, puisse s'intéresser à tous les cas. Quel qu'en soit le positionnement de la personne, il faut que la justice soit impartiale. Il faut que tous ceux qui sont impliqués, même au plus haut sommet de l'État, répondent de leurs actes devant les tribunaux. Ne faisons pas une justice à double vitesse. Ne faisons pas une justice des vainqueurs. Ne faisons pas une justice mensongère, mais téléguidée, manipulée. Nous voulons une justice crédible, indépendante, qui est capable d'agir avec efficacité.
Alors que le pétrole représente 45% du PIB de l'ex-membre de l'OPEP, ce qui fait du Gabon le taux le plus élevé par habitant, la pauvreté persiste, un paradoxe qui laisse les analystes perplexes. Pour Jean-Marie Bouillot, professeur en sociologie, la mauvaise gestion économique avec le gaspillage des revenus du pétrole par des dirigeants corrompus est une bombe à retardement.
L'argent public est l'argent de tous. L'argent public est l'argent qui est produit par tous les travailleurs dans un pays, justement. Et qui fait justement que son utilisation, sa gestion, doit répondre de manière rationnelle, de manière efficace aux besoins des populations.
Mais alors que les autorités promettent une croisade sans précédent, des controverses alimentent toujours le débat. C'est le cas de Meksan Kromessi, homme de l'homme d'Ali Bongo et figure aussi controversée qu'influente, que les opposants soupçonnent des dérives affairistes. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
« 70 morts, 5 disparus retrouvés », c'est le bilan provisoire de la bousculade de Mina côté malien. Le ministre des Affaires religieuses et du culte qui revient de la Mecque a rencontré hier la presse. Et puis toujours à Bamako, des milliers de personnes ont marché au cours du week-end pour demander le départ du patron de la MINUSMA et du représentant de la CDAO qui sont, je cite, « soupçonnés d'acquaintance avec les groupes armés séparatistes ». Pour plus de détails, notre correspondant Kassim Traoré.
À l'appel de la coordination des mouvements démocratiques du Mali, des milliers de personnes ont battu les pavés à Bamako. Les marcheurs sont partis de la place de l'indépendance au square Patrice Lumumba. Aliou Nuhu Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, président de la Commode.
Nous sommes un État souverain. Nous n'avons pas à nous baisser pour dire que nous devons de la gratitude, nous devons ramper, nous devons nous plier pour qu'on fasse du Mali ce que l'on veut. Nous disons donc, les Nations Unies, nous en sommes membres, mais ce que nous disons, nous n'admettons pas que la MINUSMA soit ici comme une force d'interposition.
Cette marche n'a pas fait oublier aux Maliens leurs parents qui sont morts à la Mecque. C'est pourquoi le ministre des Affaires religieuses et du culte, dès son retour, a fait le bilan de sa visite en Arabie Saoudite. Tchorno Oumar As Diallo.
Les 14 hôpitaux étaient pleins. Les morgues, c'est la même chose. Comme vous le savez, ces camions remorques réfrigérateurs qui viennent avec les produits de mer. Quand j'arrivais, j'en ai trouvé moins une douzaine. J'ai vu des hommes entassés, des femmes entassées, comme des carcasses de bœufs. L'ampleur, c'est l'hécatombe. Et personne ne vous dira en réalité quel a été le chiffre réel de ces victimes.
Le drame de Mina a été aggravé par une panne d'électricité qui a tué bon nombre de pèlerins.
C'est que vous aviez par exemple du chiffre 1 au chiffre 500 et plus qui ont été électrocutés, brûlés vifs, noircis, comme du charbon. Vous avez au moins un millier de corps qui ont été piétinés. Les cadavres humains étaient comme des fagots. En fait, c'était le jour du jugement dernier qui était là.
Le Mali continue le recensement de ses victimes qui sont aujourd'hui au nombre de 70. 5 disparus ont été retrouvés. 271 autres personnes sont sans nouvelles. Tcherno Oumar As Diallo.
Donc nous sommes dans la logique des 70 victimes recensées. Les blessés, il en restait à peu près 4. C'est à 3 que j'ai rendu visite. Il y a un quatrième, on m'a dit qu'il est à Taïf. Mais en tout cas, je peux vous rassurer que tout sauf dire que nos pèlerins ont été indisciplinés. Ils avaient l'autorisation de sortir de 6h35 à 10h. Et quand j'étais là, le délégué m'a appelé, on voulait lui faire signer un papier pour un peu plus ou moins les inculper. J'ai dit pas question. Quelqu'un a parlé à un officiel d'un pays d'indiscipline des pèlerins, mais pas des pèlerins maliens. Ça, je peux m'engager. Et le défendre même devant une CPI.
Les temps des deuils et des recueillements ont pris fin. Le président de la République du Mali, lors de la grande prière aux victimes, entrevoit une meilleure organisation du pèlerinage 2016. Ibrahim Boubacar Keïta.
Après le recueillement, après les prières, il faudrait que l'État, chef musulman, se concerte sur l'organisation du pèlerinage, cette fois-ci, de manière absolument uniquement conforme aux intérêts des musulmans, sans égard pour personne en particulier. L'intérêt de notre religion et l'intérêt bien fondé des musulmans.
Malgré les dispositions prises par le gouvernement, nombreuses sont les familles qui n'ont aucune nouvelle de leurs parents. C'est là, du début du drame jusqu'à nos jours. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique, le monde aujourd'hui.